Chapitre 3. Les travailleurs industriels. Chez les travailleurs de l'industrie, il faut, comme chez les paysans, distinguer plusieurs catégories. Il y a d'abord les métiers dans lesquels l'outillage est presque insignifiant, où la division du travail n'existe pas ou n'existe qu'à peine, et où, par conséquent, le travailleur isolé peut produire aussi bien que s'il travaillait en association. Tels sont, par exemple, les professions de tailleur, de cordonnier, etc. Note en bas de page. Il faut remarquer toutefois que, même dans ces professions-là, le mode de production de la grande industrie peut être appliqué et produire une économie de temps et de travail. Ce que nous en disons ne s'applique donc qu'à une période transitoire. Fin de la note. Puis viennent les métiers qui nécessitent la coopération de plusieurs travailleurs, l'emploi de ce qu'on appelle la force collective et qui s'exerce généralement dans un atelier ou un chantier, exemple, les typographes, les menuisiers, les maçons. Enfin, il est une troisième catégorie d'industrie où la division du travail est poussée beaucoup plus loin, où la production se fait sur une échelle gigantesque, et exige l'emploi de puissantes machines et la possession d'un capital considérable. Telles sont les filatures, les usines métallurgiques, les houillères, etc. Pour les travailleurs appartenant aux industries de la première catégorie, le travail collectif n'est pas une nécessité. Et il arrivera sans doute que, dans un grand nombre de cas, le tailleur ou le savetier préférera continuer à travailler seul dans sa petite échoppe. C'est là une chose toute naturelle, d'autant plus que dans les petites communes, il n'y aura peut-être qu'un seul travailleur appartenant à chacun de ces métiers. Toutefois, et sans vouloir gêner en rien l'indépendance individuelle, nous pensons que, là où la chose est praticable, le travail en commun est le meilleur. Dans la société de ses égaux, l'émulation stimule le travailleur. Il produit davantage et fait son ouvrage de meilleur cœur. En outre, le travail en commun permet un contrôle plus utile de chacun sur tous et de tous sur chacun. Quant aux travailleurs des deux autres catégories, il est évident que l'association leur est imposée par la nature même de leur travail, et que leurs instruments de travail n'étant plus de simples outils d'un usage exclusivement personnel, mais des machines ou des outils dont l'emploi exige le concours de plusieurs ouvriers. La propriété de cet outillage ne peut être que collective. Chaque atelier, chaque fabrique formera donc une association de travailleurs qui restera libre de s'administrer de la façon qu'il lui plaira, pourvu que les droits de chacun soient sauvegardés et que les principes d'égalité et de justice soient mis en pratique. Au chapitre précédent, en parlant des associations ou communautés de travailleurs agricoles, nous avons présenté à propos de la gérance, de la durée de la journée de travail et de la répartition des produits, des observations qui naturellement s'appliquent aussi aux travailleurs de l'industrie et que, par conséquent, nous n'avons pas besoin de répéter. Nous venons de dire que, partout où il s'agit d'une industrie exigeant un outillage un peu compliqué et le travail en commun, la propriété des instruments de travail devait être commune. Mais un point reste à déterminer. Cette propriété commune appartiendra-t-elle exclusivement à l'atelier dans lequel elle fonctionne, ou bien sera-t-elle la propriété de toute la corporation des travailleurs de telle ou telle industrie? Notre opinion est que c'est la seconde de ces solutions qui est la bonne. Lorsque, par exemple, le jour de la Révolution, les ouvriers typographes de la ville de Rome auront pris possession de toutes les imprimeries de cette cité, ils devront immédiatement se réunir en assemblée générale pour y déclarer que l'ensemble des imprimeries de Rome constitue la propriété commune de tous les typographes romains. Puis, dès que la chose sera possible, ils devront faire un pas de plus et se solidariser avec les typographes des autres villes d'Italie. Le résultat de ce pacte de solidarité sera la constitution de tous les établissements typographiques d'Italie comme propriété collective de la Fédération des typographes italiens. Au moyen de cette mise en commun, les typographes de toute l'Italie pourront aller travailler dans l'une ou l'autre des villes de leur pays et y trouver partout des instruments de travail dont ils auront le droit de se servir. Mais si la propriété des instruments de travail doit, selon nous, être remise à la corporation, nous ne voulons pas dire par là qu'il y aura, au-dessus des groupes de travailleurs formant les ateliers, une sorte de gouvernement industriel qui ait le pouvoir de disposer à son gré des instruments de travail. Non, les travailleurs des divers ateliers ne font pas le moins du monde l'abandon de l'instrument de travail qu'ils ont conquis entre les mains d'une puissance supérieure qui s'appellera la corporation. Ce qu'ils font, c'est ceci. Ils se garantissent réciproquement, sous certaines conditions, la jouissance de l'instrument de travail dont ils ont acquis la possession. Et en accordant à leurs collègues des autres ateliers la coparticipation à cette puissance, ils obtiennent en échange d'être à leur tour coparticipants à la propriété des instruments de travail détenus par ses collègues avec lesquels ils ont conclu le pacte de solidarité.